Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Polémique et emballement médiatique. L'Institut d'études politiques de Paris, qui forme de nombreux cadres dirigeants de l'État, des magistrats et des journalistes, se retrouve sur la sellette.
Sciences Po ne peut pas devenir un bunker islamo-gauchiste.
On assiste, et je le déplore, à une forme de lente dérive.
Parler d'un incident et faire toute une histoire pour quelque chose qui n'a jamais eu lieu.
À l'origine de cette controverse, l'occupation du principal amphithéâtre de Sciences Po, mardi dernier par des étudiants pro-palestiniens.
Gaza ! Gaza ! Sciences Po est là avec toi !
L'Union des étudiants juifs de France porte plainte. Une étudiante juive aurait été empêchée d'assister à la réunion. Les organisateurs contestent cette version et rejettent toute accusation d'antisémitisme. Cette séquence illustre les tensions provoquées au sein de l'établissement par le conflit au Proche-Orient.
On a vraiment l'impression qu'on ne peut pas parler de ces sujets.
C'est vraiment un sujet qui est brûlant, donc on l'aborde très peu et si on le fait, c'est avec des pincettes évidemment.
Et ces crispations touchent également de prestigieuses universités américaines. La directrice d'Harvard a même fait scandale lors d'une audition au Congrès en refusant de condamner clairement la résurgence de l'antisémitisme sur son campus.
Appeler au génocide des Juifs enfreint le règlement intérieur d'Harvard, n'est-ce pas ?
Encore une fois, cela dépend du contexte.
Non, cela ne doit pas dépendre du contexte. La réponse est oui, c'est pourquoi vous devriez démissionner.
Alors que se passe-t-il en ce moment à l'université ? Demeure-t-elle un lieu de débat d'idées sur les enjeux contemporains où le mouvement wokiste, antidiscrimination et l'islamo-gauchisme dénoncé par certains politiques ont-ils pris l'ascendant dans l'enseignement supérieur ?
Nos trois invités sont là. Xavier et Laurent Salvador, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes par ailleurs membre de l'Observatoire du décolonialisme. Vous avez publié, après la déconstruction, l'université au défi des idéologies chez Odile Jacob. Selon vous, il y a bien un problème « woke » entre guillemets à l'université. Le discours décolonial, par exemple, y est accueilli avec beaucoup de bienveillance. Dans le même temps, les enseignants n'osent plus aborder certains sujets devant leurs étudiants. À côté de vous, Maboula Soumaoro, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'Université de Tours et chercheuse à l'Institute for Ideas and Imagination de Columbia University à Paris. Et vous avez également enseigné à Sciences Po. Et selon vous, ça ne veut rien dire de parler d'islamo-gauchisme à l'université. L'université est un lieu de pensée qui reflète les questionnements de la société. S'il y a plus de débats aujourd'hui, eh bien, c'est tant mieux. Et à côté de vous, Damien Savreau, vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes spécialisé dans le Moyen-Orient et l'islam en France, selon vous, et d'après votre expérience d'enseignant, il n'y a aucun sujet qui ne puisse être abordé en cours. Il faut avoir conscience que l'université française était beaucoup plus radicale autrefois. Je pense que vous devez penser aux années 60-70, autrefois donc qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et on démarre le débat avec le mot du jour.
Et ingérence, ce mot du jour. Les patrons des enseignants et chercheurs de Sciences Po Paris ont donc mis en garde hier soir dans un communiqué contre le risque d'ingérence politique après la venue surprise la semaine dernière de Gabriel Attal, le Premier ministre, au conseil d'administration de Sciences Po. Aucun responsable politique ne saurait s'arroger le droit de dévaloriser les principes fondamentaux d'indépendance et de liberté académique, écrivent ces enseignants et chercheurs. Xavier Laurent Salvador, est-ce que c'était un peu précipité ces réactions ou une nécessité pour vous ?
Sans doute était-ce une nécessité. On assiste depuis quelques temps, et sans doute autour de Sciences Po, à des événements qui méritent finalement qu'on y prête une certaine attention. Je repense par exemple à ce qui s'est passé au moment où Leonardo Orlando et Peggy Sastre, sur le campus de Reims à Sciences Po, tentaient d'enseigner le darwinisme et ont été empêchés, censurés, puis virés.
Le darwinisme, la théorie de l'évolution.
Censurée
par qui ?
Censurée par l'institution, au point que le cours a été annulé, ce qui commence à provoquer quelques soucis, et par poser la question de savoir qui, finalement, gère les programmes dans l'institution. Je vois que Dominique Régnier, par exemple, a presque été censuré très récemment par les étudiants eux-mêmes.
Politologue
à Sciences Po, et absolument de la Fondapol, et qui s'était permis de retweeter Florence Bergeau-Blaclair, l'auteur de « Contre le frérisme », et que les étudiants, finalement, ont réussi à blacklister. Donc, peut-être l'événement est-il, et on en parlera moins important, ou sans doute est-il à nuancer, mais il était peut-être temps que l'institution rende des comptes. M'intéresse pas tant au discours des personnes qu'à celui des institutions, et en l'occurrence, il est bon que l'institution se saisisse du problème.
Et pour vous, Maboula Soumaoro, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous avez vu le Premier ministre venir, est-ce que vous avez dit que c'était exagéré, ou peut-être aussi, comme on l'entend là, qu'à un moment donné, peut-être que le gouvernement peut se mêler aussi de ce qu'il regarde?
Évidemment, oui, j'ai trouvé que c'était exagéré, mais que c'était aussi dans la continuité d'ingérence ou de déclarations qui ont émané des gouvernements successifs. Je pense à Blanquer, il y a quelques années.
Jean-Michel
Blanquer,
de l'éducation.
Voilà, de l'éducation nationale. Donc là, c'est un autre ministère, mais c'est puisque c'est éducation nationale et non l'enseignement supérieur. On a eu aussi des petites phrases du président. Donc ça fait, je veux dire, c'est pas nouveau. Il y a tout cet événement qui est créé autour de Sciences Po tout récemment, mais il y a quand même plusieurs années que on a eu des ingérences, en tout cas politiques, dans ce que devrait être le fonctionnement de l'université. Donc c'est dommage.
Damien Savoureux, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des glissements qu'on sent, une critique d'Israël vers l'antisémitisme? Est-ce qu'il n'y a pas un climat global dans les universités françaises aujourd'hui qui a mené à cette réaction forte du Premier ministre? Finalement, c'est un cas particulier Sciences Po, mais qui en dit long sur le reste.
Je pense qu'il est important de distinguer le militantisme étudiant de la bonne tenue des enseignements. Je crois que sur ce point-là, il est tout à fait légitime de s'inquiéter quand on voit certaines radicalités discursives dans les universités de la part de certains étudiants. Mais les enseignements, honnêtement, sur la question, en tout cas, se passent plutôt bien. J'étais justement hier sur le campus de Menton, qui est le campus Moyen-Orient-Méditerranée de Sciences Po.
Oui.
Et je donnais un cours qui était une histoire croisée du mouvement sioniste et du mouvement national arabe. Et tout s'est très bien passé. Et c'est ce genre de choses, je pense, qu'on ne voit pas généralement sur les plateaux télé et qui, en fait, prouvent à quel point ce genre de sujets peuvent être abordés.
Xavier Laurent Salvador, pas d'accord? Vous évoquez des cours qui ne se déroulent pas de manière aussi apaisée.
Je crois que les choses ne sont pas si linéaires que ça. Et comme je vous le disais, je m'intéresse au discours des institutions. Quand Leonardo Orlando et Pégusas n'ont pas pu enseigner, j'ai toujours...
C'était quand ça, pardon?
C'était il y a à peu près 8 mois. 8
ah, c'est
mois.
À peine 8 mois. Donc ils ne peuvent pas faire un cours sur le darwinisme parce qu'ils en sont empêchés, c'est ça?
Ils en sont empêchés.
Et de Reims.
Ce qui est amusant, c'est que dans le conflit qui a ensuite opposé les enseignants eux-mêmes, il était amusant de voir que l'institution a fini par confier la responsabilité de la liberté académique aux enseignants eux-mêmes qui demandaient la censure du cours. Donc je pense que finalement ce climat apaisé et serein ne doit pas nous faire oublier que Sciences Po est une école privée, une institution privée, et que de ce point de vue-là, la question des universités n'est peut-être pas tout à fait la même, et qu'on ne peut pas décorréler finalement ce qui s'y passe des enjeux à la fois politiques, économiques, qui cristallisent autour des différents campus d'institution.
Alors il y a des étudiants de Sciences Po qui ont co-signé une tribune pour s'inquiéter de dérives au sein de leur école. Écoutez l'une de ces élèves, Théa Ogula.
Moi, je ne me suis jamais sentie censurée à Sciences Po et je n'ai jamais senti le besoin de me censurer. Maintenant, est-ce qu'il y a une crispation quand on discute avec certains étudiants de Sciences Po sur certains sujets? Oui, il y a une minorité agissante qui est de l'ordre de la violence ou en tout cas d'actes et de propos qui sont parfaitement inadmissibles.
Maboula Soumaoro, on a quand même l'impression qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder ou que tout, en effet, s'est hystérisé.
Mais qu'on ne peut pas aborder de quelle façon. J'avais envie de vous poser la question de la censure. Quand vous parlez de cours qui sont censurés, de quoi qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est l'école qui interdit? Est-ce que ce sont les enseignants qui ne sont pas d'accord?
Certains qui s'autocensurent.
L'autocensure n'est pas la censure. Il y a quand même une question d'autorité et une question de hiérarchie. Donc, si les enseignants s'autocensurent, ça, il faudrait parler aux enseignants et faire de la psychologie, c'est une autre histoire. Mais si on parle de censure, il y a quand même une dimension autoritaire, étatique peut-être, et qui voudrait dire que l'institution a les pleins pouvoirs sur. Maintenant qu'il y ait des dissensions, qu'il y ait des tensions, je pense pas qu'on ait attendu 2024 pour qu'il y ait des dissensions sur des campus. Il y a quand même eu mai 1968 et je pense pas...
On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir.
Oui. Peut-être si je peux me permettre, expérience d'étudiant assez récent, je suis arrivé moi à Sciences Po en tant qu'étudiant en 2010 et c'était trois mois avant l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi qui avait lancé
les printemps arabes.
Et à l'époque, il y avait des sujets... C'était une décennie où il y avait des sujets assez chauds. Je veux dire, il y a eu le moment, la séquence des attentats, il y a eu la question de la manif pour tous, il y a eu les élections présidentielles et honnêtement, il pouvait y avoir des tensions entre étudiants, ça c'est vrai, et je pense que ces tensions, elles existent toujours, elles sont peut-être même plus fortes qu'avant, mais honnêtement, il n'y avait pas de sujet qui était interdit ni par l'institution, ni par qui que ce soit.
Depuis, alors c'est peut-être ce que vous allez nous dire, hein, Xavier Laurent Savardi, il y a eu le wokisme, ce mouvement qui fait qu'en effet, il s'éveille à toute forme de discrimination, qui pour vous a enflammé les choses depuis 2010.
Peut-être en parler un peu, mais moi je constate quand même qu'à Sciences Po, quand les étudiants, pardon, chers collègues, quand les enseignants, pardon, ne se censurent pas, il leur arrive parfois quelques misères. Et je ne peux pas oublier ce qui s'est passé à Sciences Po Grenoble il n'y a pas si longtemps que ça, quand 2021. Klaus Kinsler et Vincent Tournier avaient eu, disons, l'audace de peut-être exprimer ce qui était leur profonde conviction républicaine en s'opposant parfois à quelques actions qui étaient menées au sein des campus. Et on se souvient de quelle manière le problème a été traité et par les médias et par l'institution, aboutissant
non.
finalement...
Rappelez-le pour ceux qui ont
oublié. À l'éviction de Klaus Kinsler, à sa mise en demeure, à sa convocation devant des juridictions disciplinaires, aboutissant finalement à faire comprendre à tout le monde que oser s'exprimer n'était pas tout à fait le sens de l'histoire.
Vous souriez quand vous entendez le mot « wokisme », mais entre guillemets, Maboula Soumaoro.
Oui, je disais ce qui apparaissait à l'écran. Le wokisme a fait son entrée dans le Robert, et j'ai trouvé le Robert très très pressé d'intégrer ce mot, ce néologisme peut-être, en disant qu'il est d'origine américaine, on pourrait dire qu'il est états-unien, parce que l'Amérique est un continent, et ne se limite pas aux États-Unis. Non, j'ai vraiment l'impression parfois de parler une langue différente, et il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, qui sont galvaudés et qui ne veulent absolument rien dire. Mais encore une fois, cela dépend de l'endroit où on se situe. Est-ce qu'on parle, puisqu'on parle de l'enseignement supérieur, est-ce qu'on parle de recherche scientifique ou est-ce qu'on parle de politique? Et j'ai l'impression que quand on parle d'idéologie, ça dépend des moments. Le wokisme est un mot chargé d'idéologie. Scientifiquement, cela ne renvoie à rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... À part les personnes qui sont contre ce qui est présenté comme une idéologie, il n'y a pas de recherche sérieuse sur le wokisme. Et donc, voilà, il y a des termes comme ça qu'on utilise et qui ne font pas partie de ma langue ni de mon vocabulaire.
C'est pour ça que je souriais. Salvador, pas convaincu ?
Je ne serai pas loin de partager ça, mais je constate que c'est quelque chose qui existe aussi, par exemple, de l'autre côté. Je veux dire, le mot extrême droite ne fait pas aujourd'hui consensus. C'est quelque chose qui est employé par les adversaires pour anathémiser, etc. Et là, je crois qu'on se rejoint pleinement. Sur le wokisme aussi maintenant, enfin, je crois que là on peut quand même convenir que les travaux qu'on entreprend, notamment entre chercheurs au sein de l'Observatoire, permettent de mieux faire comprendre ces sujets-là.
En cela, le colloque qui a été tenu par l'Observatoire, c'était au mois de janvier 2022, j'ai eu le bonheur...
L'Observatoire du décolonialisme, voilà. C'est ça.
Je l'ai écouté et scientifiquement, il était très faible. Enfin, je veux dire, c'est quand on veut... Il était très faible, c'est-à-dire dans les références, dans l'étude, la déconstruction, enfin, à part parler de Derrida, on n'a vraiment pas parlé des chercheurs qui s'inscrivent dans ce qu'on appellerait la déconstruction.
Mais pardon, mais Damien, puisque vous êtes, là, au contact de cette matière, est-ce qu'il y a une forme de wokisation ou pas du tout? Est-ce qu'à un moment donné, c'est injurier l'enseignement supérieur que de le dire? Ou alors, il y a des choses qui ont émergé, qui n'étaient pas présentes jusque-là dans l'enseignement supérieur et qui se sont inspirées de ce qu'on voit aux États-Unis?
Au-delà du fait que, effectivement, je pense que le terme est assez mal choisi, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des nouvelles thématiques qui apparaissent, notamment dans les sciences sociales.
Théorie du genre, études décoloniales, intersectionnalité.
Exactement, tout à fait, et qui n'existait peut-être pas il y a 10 ou 15 ans et qui existait plus aux États-Unis. Dans ce sens-là, peut-être que certains parlent d'américanisation. Moi, je vois quand même qu'il y a quand même une très grosse différence entre ce qui se fait dans l'université américaine et dans l'université française. Je pense que Maboula Soumaoro, vous qui avez beaucoup enseigné aux États-Unis, vous avez sûrement dû le voir. Mais je crois aussi qu'on a un autre problème généralement quand on parle de ce sujet, c'est qu'on oublie toujours cette distinction entre le fait de parler de ces sujets dans le cadre d'enseignement et le fait de voir certaines pratiques militantes. Moi, je crois qu'il faut arrêter la confusion qui est toujours faite de manière immédiate entre le militantisme et les universitaires. Il y a certains universitaires qui sont plutôt militants et qui arrivent pourtant à faire des cours tout à fait objectifs, d'autres peut-être que c'est un peu moins le cas, mais l'idée même qu'il y aurait, on va dire, un mouvement qui va de concert entre les enseignements et les militants qui occupent les amphis, je pense que c'est
aller un peu vite en besogne. Alors attendez, on va revenir à Sciences Po et au cas de Sciences Po avec une étude récente qui est intéressante, que vous allez nous livrer sur tropisme de gauche chez les étudiants de Sciences Po. C'était pas le cas il y a 20 ans.
Exactement. En 2022, si les étudiants de Sciences Po avaient été les seuls à voter en France, Jean-Luc Mélenchon aurait été élu président avec 55% des voix lors du premier tour. C'est ce que montre donc cette étude de 2022 menée par deux chercheurs, Martial Foucault et Anne Muxuel, sur le profil sociopolitique des étudiants de Sciences Po. 55% des voix, c'est donc 33 points de plus que le score qui a été effectivement réalisé par Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Alors les auteurs de l'étude y voient une politisation des étudiants très renforcée à gauche, mais aussi une forme de radicalisation. D'ailleurs, les étudiants de Sciences Po l'assument. 71% d'entre eux revendiquent aujourd'hui être de gauche, alors qu'en 2002, ils n'étaient que 57%, on le voit ici. À l'inverse, ils étaient 22% à se considérer de droite en 2002, et 20 ans plus tard, ils ne sont plus que 14%. L'étude montre aussi qu'aujourd'hui, la culture politique et le militantisme de droite à Sciences Po ont presque quasiment disparu. Et puis, dernier point, quand on regarde les personnalités politiques que ces jeunes admirent le plus, eh bien, elles sont aussi plutôt placées à gauche. La démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez, elle arrive en tête du classement, suivie de Jacinda Ardern, l'ancienne première ministre néo-zélandaise, et puis en troisième et quatrième position, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Maboula Soumaoro, Gérard Larcher a parlé d'un bunker islamo-gauchiste en faisant référence à Sciences Po. Alors les mots sont forts, mais est-ce que derrière, il n'y a quand même pas un petit fond de vérité?
En vous écoutant parler, je me demandais d'où venait cette radicalisation que vous avez mentionnée. C'est-à-dire que maintenant que la population étudiantine de Sciences Po est plus à gauche, elle s'est radicalisée. Et quand avant, elle était carrément à droite, elle n'était pas radicalisée ou radicale?
En tout cas, elle n'était pas carrément à droite. Ouais. Elle n'a jamais été carrément à droite à Sciences Po.
C'était plus à Assas qu'à Sciences Po, oui.
Oui, non, enfin, oui. Moi j'ai du mal avec cette notion de radicalisation, juste parce qu'on est passé d'un bord politique.
En 2002, elle était plutôt socialiste, proche de Lionel, des idées de Lionel Jospin. Aujourd'hui, elle est plutôt du côté de la France.
Mais quand on parle de ce militantisme qui devient visible, c'est toujours le militantisme des populations qui sont, on dit dans la recherche, minorées. Mmh. Alors qu'il y a le militantisme, il y a une forte histoire de militantisme, d'activisme à Sciences Po. Nombreux sont les grandes personnalités politiques qui ont été formées par Sciences Po, des gens qui étaient encartés et qui ont mené des carrières d'enseignants à Sciences Po, et on n'a jamais mis en avant ce côté qui serait politique ou idéologique.
Mm-hmm. Xavier Laurent Salvador, sur cette notion d'islamo-gauchisme, il y a une ancienne ministre de l'Enseignement supérieur qui avait voulu lancer une enquête là-dessus, qui n'a jamais eu lieu, enquête qui n'a jamais eu lieu. Est-ce qu'on ne va pas trop loin en besogne quand on dit cela? Est-ce qu'on ne caricature pas l'université?
Je ne sais pas si on caricature, mais je trouve qu'on va un peu vite en parlant d'engagement politique à travers vos chiffres, et de même qu'on va un peu vite en parlant d'idéologie pour le wokisme. Je crois qu'en l'occurrence, il ne faut pas oublier qu'on a plutôt affaire à un fait de conformisme social en réalité, et c'est ça sans doute qui est intéressant dans l'histoire de Sciences Po, à savoir qu'on voit plutôt un discours qui s'exprime, qui n'est sans doute pas très militant, que je soupçonne même d'être très peu militant, mais qui cherche à s'abriter parce que derrière Sciences Po, il y a une carrière de réussite sociale, et ça nous démontre au contraire que la réussite sociale aujourd'hui, et les grands aspirateurs de la réussite, passent sans doute par ce conformisme qui pousse vers ce que personne ici n'appelle le wokisme, mais que nous appellerons le wokisme dans les discours médiatiques, que nous appelons décolonialisme, que une ancienne ministre avait appelé islamo-gauchisme, ça, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Et ça nous montre d'ailleurs, et je le dirai peut-être en une phrase, mais vous parliez des années 60, le militantisme de Sciences Po, du temps où il fallait être maoïste, il fallait avoir lu Mao, quand il fallait être marxiste, il fallait avoir lu Marx, quand il faut être wokiste, qui faut-il avoir lu? Personne ne le sait, personne n'a lu Kimberlé Crenshaw. En réalité, le wokisme n'est pas une idéologie, c'est une morale. Et on voit s'exprimer ici un conformisme moral au sein d'une population jeune qui aspire à la réussite.
Damien Savron, quelque part, pour dépasser Sciences Po, pour parler des campus universitaires en général, vous parliez tout à l'heure d'enseignement et de militantisme. C'est vrai qu'on a l'impression que tout se confond aujourd'hui à l'université, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant.
Oui, c'est vrai. Et puis, je pense que là, par rapport à l'enquête qui a été montrée, je pense qu'il faut aussi se souvenir que c'est une population jeune qui est en découverte de politisation. Mm-hmm. C'est un peu leur premier pas, souvent, les premières manifs et les premières mobilisations, pour ceux qui sont politisés, d'ailleurs, parce que je pense que l'immense majorité, contrairement à ce qu'on croit, ne le sont pas. Mm-hmm. Et je serais curieux de voir le pourcentage d'étudiants qui a répondu à ce type d'enquête, qui est au demeurant très intéressante.
Mais pourquoi, selon vous? Parce qu'à un moment donné, étant encarté à l'UMP, au PS, aujourd'hui, il y a une pluralité d'engagement, on est associatif, on se bat pour des causes et non pas pour un combat idéologique.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction à la fois être admiratif de Mélenchon et d'Alexandra Ocasio-Cortez, quand bien même leurs lignes politiques, je pense, sont quand même extrêmement différentes. Mmh. Mmh.
Alors, on évoquait les années 60, les 68, 72, 73. Regardez l'archive sur la radicalité politique à l'université. 73, une réforme des études supérieures donne lieu à une grève et des affrontements entre deux factions étudiantes.
7h ce matin devant la faculté de droit et de sciences économiques rue d'Assas à Paris. Une trentaine d'étudiants du GUD, un groupe d'extrême droite, arrivent pour, disent-ils, défendre leur faculté des gauchistes qui ont annoncé qu'ils viendraient rouvrir, de gré ou de force, l'établissement fermé par le rectorat. 7h30, environ 300 gauchistes séparés en deux groupes arrivent de chaque côté de la faculté. Ils sont bloqués par un détachement de CRS qui barre la rue d'Assas. Le recteur Mallet, qui est présent sur les lieux depuis 6h30, s'interpose et tente d'éviter tout affrontement. Gauchistes et éléments d'extrême droite n'en démordent pas pour autant.
Xavier Laurent Salvador, ouais. Ça a toujours été un lieu de politisation, finalement, à l'université, avec une présence de l'extrême droite aujourd'hui. On a parlé d'islamo-gauchisme ou de gauchisme, mais de fait, l'extrême droite est aussi présente dans certaines universités françaises.
Sans doute, mais je crois qu'on assiste plutôt à une dépolitisation au profit, justement, d'une moralisation de la jeunesse. Et c'est ça qui est assez intéressant. Il ne faut pas oublier que le wokisme, en réalité, est un néolibéralisme. C'est un marché qui libère des communautés. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas l'expression d'un corpus politique et d'une mobilisation étudiante. En réalité, c'est plutôt une perte de repères.
Stupéfaction de votre voisine à l'évocation d'un wokisme comme un néolibéralisme.
Voilà, et un moralisme. Alors, je n'utilise pas ce terme de wokisme, mais tout à l'heure, on a mentionné Kimberlé Crenshaw, qui est une spécialiste de droit, qui est une chercheuse, qui a mené des travaux, qui s'est intéressée à la question des doubles, triples discriminations, comment dire, imbriquées, simultanées. Enfin, je veux dire, c'est pas de la morale, c'est vraiment c'est de la recherche et évidemment c'est aussi de la politique puisque l'enseignement supérieur ne saurait se positionner en dehors des enjeux qui secouent la société. Il n'y a pas de morale.
Damien Savreau.
Je dirais que c'est d'autant plus important que justement parce que ces auteurs existent et parce que ces concepts existent et qu'ils sont là, ils sont exprimés à la fois dans le monde militant et enfin, dans l'ensemble du champ politique français, il est très important à mon sens que justement l'université s'en saisisse pour les analyser et pour à la fois pour faire de la pédagogie dessus et pour éviter que ce soit dans d'autres structures que ça se passe.
Et pour en débattre.
Tout à fait.
Donc là vous êtes d'accord avec vos voisins.
Pleinement. Notre objectif n'est pas d'attaquer les personnes, mais de documenter ces idéologies, ou en tout cas ces morales quand elles se propagent dans l'université, et d'informer le grand public des choix politiques qui dépendent de ces idéologies-là, dont parfois le grand public n'a pas.
En quoi est-ce moral ? Pourquoi il y a de la morale ? C'est pas, on n'en est pas avec du bien et du mal.
Ah, bien sûr que si.
Non,
le wokisme
de l'injuste.
L'injuste. Oui, l'injuste et du juste, du bien et du mal, du dominant, du dominé.
Liberté,
c'est
égalité,
un discours
fraternité,
extrêmement simple. Ah, bah oui, alors là, effectivement.
Justice pour tous et pour toutes.
Bah, évidemment, c'est ça. C'était déjà le programme bien avant que le wokisme ne s'installe.
Remettre en question les hiérarchies qui traversent nos sociétés.
L'idée du racisme systémique, par exemple, ou l'idée que le mal est extérieur à l'individu et que nous serions tous victimes d'un système qui parle à travers nous, c'est un fait de morale.
Mais qui a dit ça ?
Pardon ?
Qui a dit ce que vous venez de...
Le racisme systémique ?
Non, pas Ndiaye. Non. Enfin, ça, c'est un terme que j'utilise. Par exemple, le racisme systémique qui s'intéresse au système et non pas aux personnes.
Merci d'avoir accepté de façon extrêmement courtoise de débattre autour de ces questions qui font énormément de remous sur les campus et dans les universités et les grandes écoles françaises. Merci encore une fois à tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.